Pauline Pucciano. Le Septentrion. AFX rejoignait ses appartements à la hâte. Il avait enduré ce matin l'attente interminable du nouvel ambassadeur et le choc de son apparition, et tout ce à quoi il aspirait désormais était le silence et l'inaction. Tout s'était précipité depuis la curée de Bartok, à laquelle il avait assisté, comme tous les autres, sans le moindre plaisir. Les portes avaient dû s'ouvrir encore une fois. Il fallait maintenant accueillir la nouvelle recluse et supporter le spectacle de son enlisement inévitable dans les marais où ils avaient tous échoué. La claustration lui était devenue avec le temps de plus en plus odieuse et plus terrible encore la compagnie des autres. Il les supportait avec prudence et retenue, essayant toujours d'être en leur présence aussi invisible que possible et de ne rien échanger avec eux. Ni intérêt économique, ni projet politique, ni impression personnelle, ni plaisanterie superficielle. Il les tenait à distance comme si un simple contact avec eux pouvait le perdre ou le dissoudre, les observant anxieusement depuis l'espace de pure indifférence où ils parvenaient à survivre. Aujourd'hui cependant quelques données étaient modifiées. Il avait été jusqu'ici relativement facile de maintenir la barre dans la direction qui lui avait jadis semblé la moins pénible, celle de la neutralité absolue. Facile de ne jamais émettre d'avis tranché, ou, lorsqu'il était acculé à un choix, de choisir invariablement le camp du plus fort pour éviter toute complication. C'était un art dans lequel il était passé maître que celui de réduire à néant les conséquences de ses propres actes. Mais le déroulement de cette guerre étrangère l'avait soudainement impliqué malgré lui. Il ne pouvait empêcher que l'Austrie fût la seconde nation à posséder les mines précieuses d'aérocarbures, et il ne pourrait éviter à l'Austrie, si le Septentrion exécutait sa menace, d'accéder au rang des puissances majeures et de se trouver tout à coup au centre de tous les enjeux économiques et financiers. Cette pensée ne l'effrayait pas seulement, elle lui faisait horreur. Il alluma la lumière de son refuge et fut accueilli aussitôt par les cris suraigus des animaux. Cela le fit sourire malgré lui, et il traversa la bibliothèque pour se rendre dans la pièce où leur agitation fébrile n'attendait que lui pour atteindre son comble. Il regarda, avec une amertume qu'une dizaine d'années n'avait pas guérie, les plus grandes cages vides où s'étaient cognés ses fauves, puis son attention fut captée par le cri des rongeurs, affamés et tenaces. Il retroussa ses manches, enfila une paire de gants et ouvrit avec délicatesse la porte de la cage aux rats. Les mâles se faufilèrent nerveusement pour sortir, et il attendit, alors qu'il sentait les bêtes descendre le long de ses jambes pour arriver au sol, d'avoir le champ libre pour s'occuper de la femelle qui venait de mettre bas. Tout semblait aller bien. Il referma bientôt la cage et observa un moment les mouvements convulsifs des rats qui couraient en tous sens comme pour mettre à profit leur espace de liberté. AFX en appela un, qui vint vers lui, et le emmena seul dans la bibliothèque. Il s'assit posément sur son fauteuil favori, avec le rat, puis il tenta de reprendre son raisonnement. Cela n'arriverait pas, sans doute. Yorick ne prendrait pas un tel risque. Il fallait faire confiance à son intelligence aiguë des implications de toute chose. Cela ne pouvait pas arriver. Comment s'expliquer alors la peur obscure qu'il ressentait, qu'il avait ressentie tout de suite dès qu'il avait posé les yeux sur elle? Il y avait en elle quelque chose de plus dangereux que la détermination de Yorick et que la haine irraisonnée de Drial. Quelque chose qu'il n'arrivait pas bien à définir, mais qui menaçait de mettre le monde à feu et à sang. Quelque chose qui tenait de la foi, et qui était encore plus fort qu'elle. Quelque chose qu'il reconnaissait peut-être pour en avoir éprouvé la fureur quelques 15 années auparavant. Il se souvenait bien de ses ambitions anciennes, et éprouvait un vague dégoût pour l'ombre qu'il était devenu. Il leur avait survécu, pourtant. Il avait échappé à leur destruction sans merci, et avait su les étouffer à temps, avant qu'elles ne le conduisent à la folie ou à la mort. C'est pourquoi il avait si peur de les retrouver intactes, brûlantes, chez quelqu'un d'autre, en ce lieu où elles ne pouvaient augurer que d'une malédiction. L'arrivée de Lioa, il le savait, marquait une fracture invisible qui ne cesserait de s'ouvrir que lorsqu'elle aurait tout englouti. Le rat, pour le moment, tolérait la caresse monotone du doigt humain sur son dos, mais ses brusques mouvements de tête et le clignement stressé de ses yeux le montrait à tout instant prêt à bondir ou à mordre. À Effex, ayant atteint la dernière limite de ce que l'animal pouvait supporter, le laissa partir à contre-cœur, puis il renversa la tête en arrière et, insoucieux des dégâts que le rat devait être en train de causer, il resta plusieurs minutes immobile dans une suspension générale du corps et de l'esprit.